De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, on va faire vite avec deux grands réalisateurs français dans un style opposé, c'est Jacques Audiard et Gaspard Noé en ce qui te concerne, Marine.
Oui, moi je vais vous parler de Climax, le dernier donc, film de Gaspard Noé qui est passé à Cannes et qui a fait scandale là-bas. Un autre film qui a aussi fait scandale mais dans son propre pays, c'est Rafiki, un film kényan.
Et puis toi Manu, eh bien, c'est Audiard.
Ben, je vous parlerai donc des Frères Sisters, hein, que je n'ai pas vraiment aimé, donc j'en parlerai assez rapidement. Et puis je vous parlerai aussi d'un thriller qui s'appelle L'ombre d'Émilie.
Et puis, eh bien, la sortie de ce film de Jacques Audiard nous permettra de jouer un blind test sur sa filmographie. On écoutera 5 extraits, il faudra deviner le titre. Et puis, eh bien, quant à moi, je vous parlerai de Volubilis, film du Marocain Fawzi Ben Saïdi. Et ce sera l'occasion, eh bien, de l'écouter. C'est Cinérama qui débute.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Et on commence avec Climax, donc de Gaspard Noé. 1996, dans une salle des fêtes isolée en pleine montagne, en pleine tempête de neige. Alors l'année a son importance, hein, car en 90, eh bien, personne n'avait de portable et donc de contact extérieur. Une vingtaine de danseurs achèvent de répéter avant de s'envoler pour les États-Unis. Il leur reste une ultime soirée et ils comptent bien en profiter pour faire la fête, malgré que l'on comprenne assez vite qu'il y a de nombreuses rancœurs et rivalités entre eux. Pour décompresser, ils se réunissent autour d'un bol de sangria. Mais il s'avère assez rapidement que quelqu'un y a ajouté du LSD. Alors ça pourrait être le point de départ, hein, d'une comédie bien perchée façon Las Vegas Parano, mais entre les mains d'un réalisateur aussi misanthrope que Gaspard Noé, cela vire vite au cauchemar éveillé, presque au film d'horreur, tout en lumière rouge et verte et au cours duquel la nature humaine va révéler ses pires aspects. Alors, l'introduction est glaçante, une jeune femme pleine de sang, filmée caméra à l'envers, sort dans la neige en hurlant sur Gymnopédie de Carl Gluman que l'on écoute en ce moment même. Le film démentira rapidement cette première scène digne d'un survival, car comme souvent, Noé s'affranchit des codes pour livrer un film à la frontière des genres. Climax tourne sans grande surprise autour de Eros et de Thanatos, du désir et de la mort, deux antagonismes invariablement liés dans sa filmographie, et son film s'articule en deux parties, séparées par un générique rappelant celui épileptique de Enter the Void et dissocié par cette phrase « Vivre est une impossibilité collective ». De là à dire que vivre collectivement est impossible, il n'y a qu'un pas. Dans la première partie, le collectif est dans une pulsion de vie, les corps s'unissent dans la danse, la synergie atteint son apogée, son climax, au cours d'un ballet voguing filmé en plan séquence, tellement entraînant qu'il nous donnerait presque envie de réécouter Patrick Hernandez. Dans la deuxième partie, le collectif devient un cauchemar. Les gens, devenus fous à cause de la drogue, doutent les uns des autres, s'insultent, se violent et s'entretuent. La première partie est, je trouve, réellement virtuose. Alors certes, hein, comme souvent chez Gaspard Noé, c'est impressionnant sur la forme, mais c'est pas très fin sur le fond. On retrouve ses obsessions, l'inceste, l'avortement, les couloirs. Et on se surprend finalement à être surpris que Gaspard Noé, eh bien, n'aille pas plus loin dans ce crescendo horrifique. Oui, le film est choquant, mais contrairement à ce qui a été dit à Cannes, non, vous n'allez pas vomir devant, hein, je vous le garantis. Le film a été tourné en 3 semaines pour un tout petit budget. Et grâce à des fonds uniquement français, ça a l'air d'être important pour Gaspard Noé, puisqu'un carton au tout début du film le précise. Alors, seul bémol, on se perd parfois un peu dans les personnages. Ils sont très nombreux et seule une brève présentation est faite au début. Et côté comédien, eh bien, ils sont pour la plupart inconnus, hormis deux d'entre eux. On retrouve notamment Kid Ismail, le DJ qui a récemment fait parler de lui en mixant à l'Elysée, vêtu d'un t-shirt fils d'immigré noir et pédé. Il est parfait dans son quasi-propre rôle. On retrouve également Sofia Boutella, que l'on a surtout connue dans les films de danse pour ados, et qui dynamite ici son rôle de jeune danseuse sage avec une prestation à contre-emploi total. Alors, pour vous dire à quel point elle m'a conquise, je serais presque capable à présent de regarder La Momie, dans laquelle elle interprète le rôle éponyme avec Tom Cruise. Sofia Boutella, oui, c'est elle. Tout ça pour dire, Climax, j'ai énormément aimé, et pas seulement à cause de Sofia Boutella, grâce à Sofia Boutella. Moi, je le recommande vivement. Si toutefois vous aimez le cinéma de Gaspard Noé, hein. Sinon il faut pas commencer par ce film.
Bah, de toute façon, comme à chaque fois avec Gaspard Noé, il y a des spectateurs qui quittent la salle, mais oui. Bon, ça c'est pas un problème. Après, moi j'avoue que j'ai bien aimé la diversité des corps, des sons, des origines, des danses, des fluides. Ça va de la sueur à l'urine quand même, ça va vraiment jusque là, qui raconte alors un état, d'abord celui du plaisir d'être ensemble, tu l'as dit hein, dans la première partie, avant que le dérèglement s'installe, et là il y a de l'ironie, il y a des coups montés. Il y a de l'invraisemblance aussi, il y a des choses décousues. Après, on peut être vite perdu quand même, voilà. Mais la forme est vraiment, vraiment particulière et ça fait vraiment du bien dans ce cinéma français car voilà, il se prétend auteur de cinéma français. Effectivement, comme tu le dis, il y a un petit carton. Ceci est un film français et fier de l'être. Voilà, bon, c'est une provocation de plus, hein, finalement, chez Gaspard Noé. Et d'ailleurs, pendant tout le film, on voit un drapeau français, comme il est question dans d'autres films. Voilà. Alors, il y a une bande-son qui est très importante. Il y a 18 morceaux, d'ailleurs, qui sont annoncés dans le générique qui intervient en plein milieu du film. Et puis, on va écouter un montage que j'ai pu réaliser avec cette ambiance sonore. Voilà, donc c'était les 18 morceaux de la bande originale de Climax, donc musique additionnelle. Et à noter que sur Bande à part, le site internet, eh bien, cette bande sonore est commentée par Gaspard Noé. Allez, on parle maintenant d'Émilie.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Je considère Émilie comme ma meilleure amie. C'est une personne merveilleuse et si raffinée.
Alors, vous connaissez le réalisateur Paul Feig ?
Non.
Non, bon, ben, je vous en parlerai.
Ça va t'aider pour ta chronique, quoi.
Ça peut m'aider, oui, voilà. Alors, c'est, bon, c'est pas un réalisateur vraiment connu pour sa subtilité, hein, c'est même plutôt, on va dire, un faiseur poids lourd, spécialiste de la comédie, un peu trash, en fait, inspiré bah, par les films un peu d'Apatow ou même des Farrelly. À la différence près que ses films adoptent souvent, en fait, un point de vue féminin, notamment dans Mes meilleurs ennemis, et puis aussi, mais alors malheureusement, dans le remake calamiteux de SOS Fantôme. Alors, le voir passer du côté du polar, hein, laissait craindre quand même le pire. Cette quête de la respectabilité de nombreux cinéastes qui sont issus d'un genre encore un peu déconsidéré, hein, la comédie, s'avère souvent casse-gueule. Alors, L'ombre d'Émilie, c'est l'adaptation d'un roman de Darcy Bell, dont je serais assez curieux de jeter un œil, juste pour évaluer un peu la trahison, si effectivement les scénaristes ont pris en fait des libertés vis-à-vis du support original. Car très vite, il faut bien se rendre à l'évidence, hein, L'ombre d'Émilie n'est pas ce qu'il semble être, hein, du moins sur le papier, c'est-à-dire un thriller inquiétant. Alors, les premières minutes démarrent sur le chapeau de roue, imposant une dynamique endiablée, emportée par des dialogues désopilants. Et vraiment, on est vraiment dans une comédie, en fait.
Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur.
Ma femme est une énigme. Elle se laisse approcher, mais reste à jamais inaccessible.
J'adorais les mythes, mais tous ces mots m'en faisaient peur.
Nous avons tous notre part d'ombre. Certains le cachent mieux que d'autres.
J'adore mon poisson rouge. Il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi. Et je m'attais rien que pour lui.
Il y a 5 jours, Émilie a disparu. Je me rends compte que finalement, je ne la connaissais pas aussi bien que ça. Émilie, si tu nous entends, nous sommes tous très inquiets.
L'une des grandes originalités du film, c'est que toute la bande-son est uniquement constituée de chansons françaises. Et on entend d'ailleurs beaucoup de chansons de Serge Gainsbourg. Et c'est assez étonnant. Et on se demande d'ailleurs pour, si vraiment aux États-Unis, ça peut faire un écho auprès du public.
T'imagines ?
Je ne suis pas sûr. Pas sûr, parce qu'il y a vraiment des choses un peu obscures, hein, dans les chansons choisies. Mais bon. Alors, on fait la connaissance de Stéphanie, hein, une mère de famille, veuve entièrement dévouée à son rôle de maman, un personnage échappé un peu de la série Desperate Housewives, qui cherche, via son vlog pour ménagères de moins de 50 ans, donc à découvrir la vérité sur la disparition de sa nouvelle amie, la sulfureuse Émilie. Alors, Stéphanie est portée par l'abattage énergique de Anna Kendrick, une actrice pourtant jusque-là complètement, j'allais dire, désolante, puisqu'on l'a vu, je crois, dans Twilight. Alors, qui s'échappe à quelques minauderies près de la transparence de ses apparitions habituelles et... C'est réellement une figure burlesque, un corps à la fois gauche dans sa rigidité et puis très agile, procurant d'emblée des quelques éclats de rire. Alors cette silhouette comique va donc fuir un genre et s'infiltrer sinueusement dans un autre, hein, le thriller sulfureux à la Basic Instinct ou Gone Girl, deux références évidentes dès qu'apparaît la fameuse Émilie incarnée par une Blake Lively. Alors moins fade que d'habitude, mais pas vraiment convaincante non plus en femme fatale un peu badass. Émilie est le strict opposé de Stéphanie, en surface du moins. Elle boit, se drogue, est sexuellement libérée, s'adonne à l'échangiste, se débarrasse de son gosse dès qu'elle en a l'occasion. Alors pas vraiment une mère idéale, elle. L'amitié entre les deux jeunes femmes est-elle réelle ou cache-t-elle des desseins plus troubles et pervers ? Alors sans trop en dévoiler, hein, même si on anticipe rapidement les événements, L'ombre d'Émilie s'avère un drôle d'objet, quasi schizophrène, qui oscille constamment entre la comédie noire déglinguée et le polar machiavélique, nettement moins emballant, hein, à force de retournements de situation prévisibles. Alors cette chose un peu hybride ne sait pas trop sur quel pied danser, quel ton adopter. À chaque fois que l'intrigue nous transporte, que les enjeux narratifs deviennent captivants, bah Paul Feig ne peut s'empêcher de sabrer consciemment son film avec une blague pourrie ou un gag. C'est assez déconcertant. Un peu comme si chez Fincher, il y avait un humour prout-prout au milieu en fait. Et c'est très très étrange. Alors un humour loufoque et décalé vient nous rappeler que tout ceci n'est pas vraiment sérieux, que cette délicieuse plongée dans un monde pas très catholique n'est jamais réellement ce que ça en a l'air. Alors dommage, hein, pour le côté immersif, mais peut-être tant mieux pour le reste, car ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas non plus d'une parodie, mais d'une farce noire et gentiment subversive où le réalisateur ose aborder quelques thèmes tabous comme l'inceste ou le meurtre fratricide dans la joie et la bonne humeur. Alors cet aspect légèrement déviant rend le film assez euphorique par intermittence, même si une baisse de régime à mi-parcours empêche l'adhésion totale. Les 20 dernières minutes, hein, complètement déjantées, tourne totalement en dérision le genre dans lequel il s'inscrit alors jusque-là, et le réalisateur essayant tant bien que mal de trouver un équilibre entre la comédie et le film noir. Mais voilà, moi je dirais que c'est une excellente comédie et un mauvais polar en fait. Mais bon.
À l'ombre d'Emily, c'est en salle depuis le 26 septembre. On entame maintenant la partie interview de cette émission, celle de Fawzi Bensaïdi.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Si on s'en remet à la bande-annonce de Volubilis pour savoir si on paie son ticket de cinéma pour regarder le film du Marocain Fawzi Bensaïdi, on n'ira pas loin, hein, tant cette bande-annonce est indigente. Sans doute la faute à un distributeur fauché qui n'a pas pu faire mieux qu'une dizaine de salles en France, disposées donc à accueillir ce long métrage qui se déroule au Maroc et qui dresse un féroce portrait du pays où le partage des richesses et l'ascenseur social est en panne. Fawzi Bensaïdi a suivi deux personnages qui sont amoureux mais qui, faute d'argent, eh bien, n'ont pas de chez eux et pas d'intimité pour vivre leur amour. Il s'agit d'Abdelkader, qui est vigile dans un grand magasin, et de Malika, qui, elle, est employée de maison chez un homme influent et fortuné. Mais un jour, Abdelkader, croyant suivre le chemin qu'on lui avait tracé, va être confronté à l'humiliation, un épisode violent qui aura des conséquences sur l'histoire de ce jeune couple qui vient de se marier. Alors, on nage en plein mélodrame social avec quelques pointes de comédie où Tati n'est pas loin. D'ailleurs, Fawzi Bensaïdi admire le réalisateur de Mon Oncle. La trame choisie par Bensaïdi est la lutte des classes dans le Maroc contemporain. Alors, on a beau avoir plein de rêves comme ce jeune couple, on est englué dans son déterminisme social parce que ceux qui sont au-dessus de nous, eh bien, nous enfoncent. La métaphore est parfois trop appuyée et alourdit le récit. C'est presque dommage, hein, que ce film sorte en même temps quasiment que l'excellent Sofia de la marocaine Meriem Benbarek, dont on a parlé il y a quelques émissions, qui, elle, raconte aussi la lutte des classes au Maroc sur fond de libération de la femme, avec une clarté qui manque peut-être à Volubilis. Mais cela ne fait pas non plus de Volubilis un film raté, il est juste imparfait. Et on écoute son réalisateur, donc Fawzi Bensaïdi, rencontré au Festival Cinéma de Montpellier où le film était en compétition. C'était il y a presque un an.
Je vais vers les films pour évidemment dire quelque chose sur le monde dans lequel on vit. Ça bien sûr, c'est sûr. Mais je vais aussi vers les films quand j'ai une idée de cinéma, si je peux dire. Sans cela, ça ne m'intéresse pas aussi. C'est-à-dire, si ce n'est que utiliser la grammaire du cinéma dans sa possibilité la plus réduite pour dire des choses, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, si je n'ai pas dans un film la possibilité d'aller sur un territoire que j'espère comme ça plus fertile, plus excitant et travailler sur des idées de cinéma dans le film, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc l'intérêt, il est double. Il est pour raconter des choses sur le monde, mais il est aussi poser un regard sur le cinéma lui-même. Ce que j'avais envie, ça par contre, j'avais envie, c'est de dire... Quel est le portrait de l'homme qui est né à la fin du siècle dernier, mais qui a commencé à comprendre le monde autour de septembre 2001, si je peux dire. Il y a toute une génération qui a grandi dedans et qui a démarré avec ça, et puis tout ce qui a suivi, toutes ces 15 dernières années. C'est vrai, le film se dit, mais c'est quoi le portrait d'un homme du 21e siècle aujourd'hui ? Que moi je raconte à travers mon pays, parce que c'est celui que je connais le plus et c'est là où j'ai envie de poser ma caméra. Mais je dirais, moi je le mettrais, pour donner un parallèle, comme celui qui ici va voter le Front National, par exemple. C'est cet extrémisme-là. Dans mon deuxième film, par exemple, j'avais quasiment, parce que le film et sa forme le permettaient aussi, j'avais quasiment fait que tout ce qui était déclaration de l'intime passait par le français. Par exemple, ça, c'était quelque chose qui me frappe toujours. C'est pas que le dialecte n'est pas capable, ouais. Le dialecte est capable de le dire, mais c'est presque... Quand on connaît pas le français, on se démerde, mais quand les gens ont accès à une autre langue, ils passent par cette langue pour dire l'intime. C'est comme prendre en fait un masque, c'est comme prendre... On est plus à l'aise du coup de dire les choses.
Voilà, c'était Fawzi Bensaïdi, réalisateur de Volubilis. On enchaîne maintenant avec la partie blind test de cette émission avec Jacques Audiard.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Alors, on s'est pas très bien entendu, Manu, hein, sur cette histoire de Jacques Audiard. Tu l'as vu il y a peu de temps et tu as rédigé une chronique très rapide. Bah, d'ailleurs, tu l'as
oui,
pas aimé.
Et puis, comme je l'ai vraiment pas aimé, je pensais pas être le client idéal pour défendre du moins le Audiard. Mais comme
tant
je suis
pis.
Quasiment la seule voix un peu discordante d'une presse qui est unanimement dithyrambique. Donc, je vais essayer de dire pourquoi je n'ai pas aimé ce film-là. Alors déjà, moi, un problème, c'est que Jacques Audiard, il déclare ne pas aimer le western. Alors, c'est quand même curieux. Hein. Dans la revue La Septième Obsession, il s'en prend notamment à John Ford et Sam Peckinpah, ce qui me semble quand même curieux de réaliser un western alors qu'on n'aime pas le genre. Quoi.
C'est un défi.
C'est un défi, mais ça passe pas trop. Quoi. Et ça se sent un petit peu, parce qu'il méconnaît un petit peu, les codes. Il essaye de les détourner constamment. Hein. Il prend en fait le genre de haut et pour moi, il livre un pensum un peu, une fable pseudo-humaniste, bien dans l'air du temps, où par opportunisme, il tente d'atténuer un peu son cinéma viril et réac, peut-être en réaction à plein de critiques qu'il a eues, disons, sur ce sujet. Et à mon avis, bon, ça ne marche pas. Hein. Le film est tourné en Roumanie et en Espagne, et visuellement assez anodin. Je pense que, quitte à faire un western aujourd'hui, ça me semble plus cohérent de le tourner aux États-Unis.
Les autres, ils ne voulaient pas appuyer sur les
grands
paysages.
Je pense qu'ils voulaient peut-être s'échapper d'un côté carte postale, d'un côté comme ça, un peu iconique, codifié. Mais en même temps, je pense que ce côté codifié apporte beaucoup au genre. Et si on prend par exemple un cinéaste comme Haneke qui n'aime pas le film d'horreur, quand il fait Funny Games, il adapte, il prend tous les codes du film d'horreur. Il les détourne, mais il s'en sert et il les utilise. Là, Audiard, il s'en échappe. C'est-à-dire que alors déjà, l'histoire, tout est appuyé un peu au marqueur hein, dans cette fable bavarde et au final, avec un final en plus assez niais, où les deux frangins vont revoir leur maman, il y a une espèce de truc mélodrame larmoyant, et ça c'est assez pénible. Et surtout là où je pense qu'il a foiré son film, et pourtant c'est volontaire de sa part, c'est surtout dans les scènes d'action, qui sont quasiment filmées hors champ, de nuit, on ne voit rien, et je pense que c'est volontaire, il n'avait pas envie de réaliser, je pense que c'est ça, il ne voulait pas réaliser un western, mais un autre film, une fable. Alors, à sa décharge, hein, à la base, c'est une commande. C'est une commande par les studios américains hein, qui lui ont proposé, suite, je pense, au succès de ses derniers films, de réaliser donc Les Frères Sisters, qui reste la chose assez marrante, je trouve, le titre.
En même temps, son précédent film, Dipan, avait un côté western urbain, avec ce personnage qui tentait de défendre sa famille.
Bah, un petit peu, ou du moins le film de Vigilante, style Charles Bronson, c'est-à-dire le film de vengeance, qui peut s'adapter effectivement très bien au western. Non, mais il y avait un côté western, ouais, western urbain, contemporain, et c'est pas étonnant que ce cinéaste, finalement, qui rejoint, je dirais, les cinéastes un peu virils américains, comme Robert Aldrich, des gens comme ça, finalement, face à un western. Mais je trouve qu'il rate quand même le coche. Alors, je n'aime pas trop Audiard, j'avais beaucoup aimé son premier film, Le Regard des Hommes Tombés. Alors, la qualité l'une des grandes qualités du film, c'est l'interprétation, et notamment John Reilly, qui est vraiment super.
Alors, tu l'as dit, effectivement, la critique est dithyrambique hein, sur Jacques Audiard. À noter que ça fait partie des réalisateurs français qui sont les plus récompensés au César. Et à noter que sur tous ces films ont été récompensés au César, sauf deux. Mais les deux qui n'ont pas été récompensés au César ont été récompensés à Cannes. Ça veut dire que tous les films ont été récompensés sur l'ensemble des deux compétitions. Et Jacques Audiard est le plus récompensé. Il a remporté 9 statuettes, soit en tant que scénariste ou réalisateur. Voilà. Alors, on entame ce blind test avec... Eh bien, c'est forcément facile parce qu'il a réalisé quand même peu de films et qui sont assez identifiables. Premier extrait, c'est très facile.
Sourde.
Oui, sourde. Ça va, on va pas y passer l'après-midi.
Et alors là, par exemple... Ils disent quoi, là?
Je résume, hein. Keller est en train de dire que je me suis pas mal débrouillée, que c'est une chance pour un cajou comme moi d'avoir trouvé un type comme vous. Et que si ça se trouve, je suis une affaire et qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Là, Keller vient de dire un truc, mais je crois que c'est clair.
Mais eux, ils savent que vous...
Non. Bon. Ça va, vous avez assez mangé, on peut y aller, là?
Ça a été trouvé, évidemment.
C'était sur mes lèvres.
Oui, sur mes lèvres, film de 2002, avec, bien, pour les Césars, meilleure actrice pour Emmanuelle Devos, qu'on écoute. Meilleur scénario et meilleur son. À noter qu'il va y avoir une série qui va être adaptée, donc, sur Netflix, qui va voir le jour dans peu de temps. 600 000 entrées en France. Deuxième extrait.
T'as connu mon père, toi ? Il était pas du tout gâteux, plutôt du genre hyperactif, autoritaire et tout. Mais à un moment donné, il s'est mis à me faire chier, tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier, hein. Mais là, c'est devenu autre chose, il m'a fait chier d'une autre façon. Et avant, on me demandait jamais mon avis, ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé. Il me demandait de faire les choses, et puis moi, je les faisais. Et puis à un moment donné, il s'est mis à me demander mon avis, tu vois. Ce que je pensais de si, comment je trouvais ça, ce que je ferais à sa place, etc. Puis des fois, il me demandait mon avis sur ces histoires de cul avec cette caissière, ce secrétaire. Je détestais ça, je trouvais ça dégueulasse. Lui, il continuait, comme si j'étais devenu son pote, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Et puis à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait, tu vois. C'était plus mon père que j'avais en face de moi. C'est comme si j'avais un môme, qu'il était devenu mon fils, que j'étais responsable de lui, que c'était moi, le père.
C'était évidemment facile.
De battre mon cœur s'est arrêté.
Voilà, l'histoire du père, la filiation, c'est quand même important chez Audiard, forcément. Et c'était 8 Césars, hein, quand même, en 2005. Troisième extrait.
Si tu voulais pas que ton argent y passe, tu voulais pas me le laisser. Je t'ai rien demandé. Je t'ai demandé quelque chose. Hein ?
Non ?
Alors ?
C'est pas grave, Marx.
Putain, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai carboné son pognon, c'est pas grave. Kessia, qu'est-ce que tu veux me dire avec tes yeux de clébard ?
C'est trouvé aussi.
Regarde les hommes tombés, c'est le premier film d'Audiard, d'ailleurs.
Ouais, avec Trintignant, Kassovitz et Jean-Yann, et c'était déjà 3 Césars. Et boum, mais seulement 218 000 entrées, ça commençait petit. Quatrième extrait.
Si tu peux te balader partout dans la tôle, c'est parce que je t'ai fait nommer Oxy. Si tu bouffes, c'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Tu dis que t'as pas de maton, pauvre con. Hein. Il y a écrit partout Luciani sur ta gueule. Tu es sur la bête, Yébéla. Mais que tu regardes, c'est moi qui vois. Sinon, qu'est-ce qu'il verrait ? Tu peux me dire ce qu'il verrait ?
Alors là, on n'a pas mis celui qui a remporté le César du meilleur acteur. Mais...
Oui, non, non, on ne peut pas entendre Tarim, mais on entend Nils Arrestrup, c'était un prophète.
Oui, avec 9 récompenses au César, film de 2008, et là, c'était 1,3 million d'entrées, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Cinquième extrait.
Tu files combien pour faire ça ?
Je ne sais pas, 500, 1000, ça dépend si je gagne.
Tu ferais ça pour 500 euros ?
Bah ouais.
Tu te fais défoncer la gueule, mettre des coups sur la gueule comme ça, risquer ta santé pour 500 balles.
Oh, risquer ma santé, ça va, ah, t'excites pas.
Je te les file, moi, les 500 balles. T'as nul, je te les file. Demain.
Bah, si t'en as trop, tu me les files, mais j'ai dit que je le faisais, donc je te fais.
Bon, facile aussi.
Do it us.
Voilà. En 2012, avec 4 Césars, et c'est le film qui a réalisé le plus d'entrées, 1,9 million. Voilà, c'était le blind test Jacques Audiard. Et on termine cette émission avec un film kényan.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Et on continue donc avec Rafiki de Wanuri Kayou. Zena et Ziki sont deux lycéennes kenyanes. L'une veut devenir médecin et aider son pays, l'autre rêve d'ailleurs. Ce sont des enfants des villes et leur quotidien est finalement assez proche de celui qu'on pourrait avoir en Europe, à ceci près eh bien, qu'elles vivent encore dans une société conservatrice et qui ne va pas voir d'un bon œil le fait qu'elles tombent amoureuses l'une de l'autre. Réalisé par Wanuri Kayou, Rafiki est le premier film kényan sélectionné à Cannes en sélection Un certain regard pour être précis. Alors l'affiche annonce avec grandiloquence ovationné à Cannes, interdit au Kenya. Alors oui, il est vrai que le film a été interdit dans son propre pays, mais finalement il sera projeté à Nairobi et va peut-être même concourir pour les Oscars. Ensuite, faut pas non plus déconner, hein, j'y étais à Cannes quand le film est passé, personne ne s'est levé pour applaudir, le film a reçu un accueil poli, mais pas vraiment dithyrambique, et pour cause, Rafiki est un pur objet de festival, le petit film indé par excellence, qui cumule tous les critères pour être sélectionné partout, jolie lumière, bande originale qui va bien, un indéniable sens du cadre de la mise en scène, et un sujet un peu brûlant, mais ça casse pas non plus des briques. La réalisatrice se réclame du collectif Afro Bubblegum, qui entend montrer à travers un nouveau style de film une vision pop et joyeuse de l'Afrique. Pas de misérabilisme donc, pas de portée documentaire. Malgré ses enjeux dramatiques, le film reste résolument optimiste et plutôt léger. Le sujet du film ici n'est pas vraiment l'homosexualité interdite, c'est davantage un film qui narre le passage à l'âge adulte de ses deux protagonistes. Rafiki, en kényan, signifie « ami ». Oui, ce n'est pas seulement le nom du vieux singe dans Le Roi Lion. Car en se rencontrant, Kenna et Ziki découvrent l'amour, mais également une véritable amitié qui va leur donner la force chacune de mener leur projet à bien. Au final, le film est un peu démonstratif, assez maladroit, mais son côté clippé lui donne aussi un vrai charme. Ce serait dommage de passer à côté, mais vous pouvez aussi en même temps vous en passer, en fait. C'est assez paradoxal, finalement. Et par contre, si vous voulez le voir, je vous conseille vraiment de ne pas aller voir la bande-annonce, parce qu'elle raconte le film jusque dans ses 10 dernières minutes. C'est insupportable.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Alors, la semaine prochaine, eh bien, je vous parlerai de Frères Ennemis, un film, un polar, qui a été projeté à Venise. Et puis toi, Manu ?
Un premier film de genre, au style de Mathieu Turi.
À la semaine prochaine.